السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين. وبعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. مشافر الإسلام، nous remercions Allah عز وجل qui nous donne la possibilité de nous réunir ce jour pour la salat Jum'a, le Eid du musulman, le jour de fête du musulman. Et c'est un ni'amat que de pouvoir se rendre à la mosquée en pleine possession de ses capacités physiques, d'avoir la santé, subhanallah, pour pouvoir marcher, venir à la masjid, être autonome, ne pas être dépendant des gens, ne pas être dépendant de médicaments, de soins, de produits. Ça, c'est déjà un grand ni'amat de la part d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Petite parenthèse avant d'entrer dans le sujet, je discutais avec un jeune hier qui était très triste, c'est hors sujet ça, qui était très triste parce qu'il a loupé le bac, le second tour, pour 2 points. Je discutais avec ce jeune-là, il était dépité, pour ne pas dire décapité, il était dépité parce qu'il a loupé son bac pour 2 points, c'était le second tour. Alors moi je comprends qu'on a, passé le bac il y a peut-être 10 ans, mais... On comprend c'est quoi la pression qu'il y a quand on passe un examen et on sait c'est quoi la tristesse et la frustration qu'on peut ressentir lorsqu'on échoue un examen. Mais là-dedans, il y a 2 leçons à tirer. Ce n'est pas la leçon pour les perdants, c'est la leçon pour le mu'min. La première leçon, c'est, subhanallah, regarder la tristesse d'un insan, d'un être humain, quand il échoue une étape du dunya. Maintenant, allez voir aux abords du lycée, ces jeunes qui ont reçu leur bac, comment ils explosent de joie. Ils peuvent même plus s'exprimer, c'est tout juste soit ils éclatent en sanglots, soit ils rient tellement qu'ils ne peuvent plus trouver les mots. Ça, c'est quand un homme réussit quelque chose dans ce dunya. Maintenant, faites le parallèle avec ce mu'min qui, le jour de Qiyama, reçoit son livret de compte dans la main droite. فَيَقُولُ هَا أُمُقْرَأُ كِتَابِيَ. Ce musulman-là, اللَّهُمَّ جَعَلْنَا مِنْهُمْ, sera tellement fier, tellement content d'avoir réussi l'épreuve de sa création. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِي لِيَعْبُدُونَ. J'ai été créé pour ça. J'ai été conçu pour ça. Pour adorer Allah toute ma vie et mourir dans l'adoration d'Allah. C'est ça le but de ma création. Et ce mu'min-là, il reçoit l'attestation que tu as réussi. Ta vie, ce fut un succès. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui va y arriver après ça? C'est-à-dire que d'étape en étape, il va découvrir c'est quoi la destination de celui qui a réussi. Il va se trouver sous l'ombre du trône d'Allah, il va se trouver avec les Sahaba, ridwanullahi alayhim ajma'in, il va passer à l'étape du Sirat, le Mizan, la balance, en voyant ses bonnes actions, dépasser de loin ses péchés, et il va passer sur le pont à la vitesse de l'éclair et accéder au paradis, et être avec les gens pieux, les salihin, les nabiyin, les siddiqin, les shuhada'i, les salihin, dans les plus hauts degrés du paradis. Ça, c'est la joie, mais incomparable. Incomparable avec celui qui réussit l'étape du akhirat, qui réussit l'objectif de sa création. Maintenant, analysez la tristesse de ce jeune qui a perdu 2 points et qui n'a pas réussi les examens. Mais là aussi, on ne peut pas comparer avec celui qui, le jour de la résurrection, se voit remettre son livret de compte dans la main gauche derrière son dos. C'est la plus grande humiliation. C'est la plus grande détresse. Parce que le jour de Qiyama, il n'y a pas de rattrapage. C'est soit on réussit, soit on échoue. Et si on réussit, il n'y a pas de mots pour expliquer. Mais si on échoue, Allah Musta'an, là aussi il n'y a pas de mots pour décrire la détresse et surtout pour décrire l'horreur qu'il va y avoir après l'étape où la personne sait qu'elle a manqué son passage dans ce dunya. Et il y a une autre leçon à retenir, on essaie d'expliquer à ce jeune que tu as peut-être raté cet examen, mais pense à celui qui a le même âge que toi, mais qui lui est triste du matin au soir parce qu'il ne peut pas marcher. Triste du matin au soir parce qu'il n'a pas la vue, parce qu'il ne peut pas parler, parce qu'il a tel ou tel problème de santé, qui fait que lui ne réussira mais jamais dans sa vie. Parce qu'il est condamné. Il est condamné pas par injustice de la part d'Allah, mais par qadha illah, par la décision et la sagesse d'Allah, qu'il aura une épreuve lourde de ce dunya, mais un honneur inestimable de l'akhirat. Mais restons dans le cas de la tristesse de celui qui
a des graves problèmes de santé. Cette personne-là, si on lui disait qu'on te redonne ta santé, mais on te fait échouer au bac, Allah Akbar, dès demain qu'il prendrait ce ni'ama. Donc apprenons et enseignons nos enfants à relativiser les réussites et les échecs. Relativiser les réussites également, quelqu'un qui a réussi son bac, il ne doit pas aller fêter ce bac demain soir. Il n'a pas à aller en boîte ou faire une fête avec ses amis garçons, filles, faire n'importe quoi pour fêter le bac. Parce que ça, ce ne serait pas de la reconnaissance envers Allah. Et Allah Ta'ala dit au Coran, « La in shakartum la, la azidannakum » Quand on est reconnaissant, Allah nous donne plus. Et la vie ne se limite pas au bac. C'est pas que j'ai le bac, j'ai tout réussi. Avec le bac, vous avez autant de chances de vous retrouver à la NPE que celui qui n'a pas le bac. C'est une réalité. C'est une étape pour accéder aux études supérieures. Bref. Donc, comprenons que ce musulman qui a réussi, qu'il comprenne bien qu'il aura encore, et encore, et encore besoin d'Allah dans toutes les étapes de sa vie. Parce qu'il n'a pas réussi sa vie mondaine avec le bac. Il a encore beaucoup d'étapes devant lui. Et il aura encore beaucoup besoin d'Allah. Mais surtout besoin d'Allah dans les étapes de l'au-delà. Donc, ça c'était une petite parenthèse pour que nous comprenions un petit peu toute l'euphorie qu'il y a depuis hier. On entend en radio, différentes radios, les gens qui crient, qui pleurent, qui sont euphoriques. Comprenons que ça, ce n'est que du dunya. Qu'on le réussisse, alhamdoulilah. Si on ne réussit pas, on en tire les conséquences, les leçons, on ne répète pas les mêmes erreurs. Mais qu'on n'oublie pas que notre objectif, c'est quoi? C'est l'adoration d'Allah. Et c'est de mourir et qu'Allah est satisfait de nous. Et de retrouver Allah le jour de Qiyama, qu'il soit satisfait de nous. Et de nous faire accéder au paradis. C'est une parenthèse pour qu'on comprenne que venir à la salat au Jum'a en pleine possession de ses capacités physiques, mentales et surtout avec le iman, avec la foi, c'est, mes chers frères, un grand bienfait de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mes chers frères, nous vivons en ce moment le mois de Sha'ban et nous sommes à peu près le 7 voire le 8 de ce mois de Sha'ban. Et très souvent, lorsqu'on parle de Sha'ban, qu'est-ce qui fait-il dans nos têtes? Sha'ban égale 15 Sha'ban. Quand on parle de Rajab, Rajab est synonyme de 27e grande nuit, il faut bien masjid, passe la nuit dans masjid. Et très souvent, notre conception de la religion se limite à des événements qui malheureusement sont plus culturels que cultuels. Allah musta'an. Et les conséquences, c'est quoi? C'est que le musulman qui va venir avec foi, conviction, motivation à la mosquée le 27e Rajab, on le retrouvera quand? Le 28e Rajab? Non. On le retrouvera le 15 Sha'ban. Entre temps, il n'est plus là. Pour lui, il est venu le 27e. Halas, il a fait son devoir de musulman. Et celui qui va passer la nuit en adoration, qui va aller peut-être jeûner, même si on connaît que hadith, on connaît qu'il y a les hadith, celui qui va donner de l'importance au 15 Sha'ban, est-ce qu'il sera là le 16e Sha'ban Rajab ou Zohor? Non. Il sera là quand? Le 1er Ramadan. Est-ce que c'est ça l'objectif du din? Est-ce que c'est ça le travail du alim? De motiver les gens à être là les grandes nuits et puis Allah musta'an. Certainement on fait le travail, mais le message qu'on doit faire passer, c'est de ne pas se focaliser sur ces événements. Certes, le 27e, il n'y a rien, il n'y a pas de travail, mis à part ce qui s'est passé. Le 15 Sha'ban, c'est une nuit de pardon, oui. Mais qu'on mette plus l'emphase sur le fait que ce mois de Sha'ban, c'est un muqaddima. C'est une préparation, c'est une étape cruciale pour rentrer correctement dans le mois de Ramadan. On va parler de la nuit du pardon, c'est une nuit où Allah pardonne. Oui, les hadiths sont hassan, les hadiths sont presque authentiques là-dessus. Mais surtout, on doit bien faire comprendre, on doit bien intégrer le fait que Sha'ban, c'est le dernier pas vers le mois de Ramadan. Et notre prophète, alayhi salatu wa salam, lui, donnait l'importance à ce mois de Sha'ban. Hadith dans lequel Oussama bin Zayd, on va dire en français, on a peu de temps, il raconte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne jeûnait jamais autant, on parle de jeûne nafil bien sûr, que durant le mois de Sha'ban. Et jamais le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne cumulait autant de rosa, autant de jeûnes que durant le mois de Sha'ban. Et on demanda au prophète sallallahu alayhi wa sallam, walima araka, au prophète d'Allah, pourquoi est-ce que tu jeûnes autant durant le mois de Sha'ban? Et notre prophète alayhi salatu wassalam a répondu que ce mois de Sha'ban, c'est un mois qui se trouve entre Rajab et Ramadan. Mais malheureusement, beaucoup de gens ignorent l'importance de ce mois. Et notre prophète alayhi salatu wassalam, le hadith de l'imam Ahmad et al-Nasa'i, il nous donne une indication sur la valeur de ce mois. هو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين عز وجل. C'est un mois où les actions sont présentées à Allah عز وجل. Durant le mois de Shaaban, les actions du musulman sont présentées à Allah سبحانه وتعالى. فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. Et je souhaite que lorsque mes actions seront présentées auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, que je sois en état de jeûne. Pourquoi? Le prophète alayhi salatu wasalam souhaite que quand ses actions seront présentées à Allah, qu'Allah voit ses actions alors qu'il est en état de jeûne, afin qu'Allah ta'ala ait de la rahma pour lui, subhanallah. Et qui parle? Et qui c'est qui nous dit ça? C'est le prophète alayhi salatu wasalam. Celui qui faisait une quantité de istighfar par jour, alors qu'il ne faisait pas un péché, qui n'a jamais fait de péché de toute sa vie. Le prophète alayhi salatu wasalam nous fait comprendre que le musulman se doit de se soucier de ce moment crucial où les actions sont présentées auprès d'Allah. Et ce mois de Rajab fait partie de ces moments clés où les a'mal, les actions, mais malheureusement ce n'est pas que les bonnes et les mauvaises actions sont présentées auprès d'Allah. C'est pour ça que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam donnait une importance particulière aux jeûnes du mois de Sha'ban. Et c'est pour la même raison que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûnait également les lundis et les jeudis. On demanda au prophète alayhi salatu wa sallam pourquoi autant d'importance, autant d'insistance sur les jeûnes du lundi et du jeudi. Notre prophète alayhi salatu wa sallam a donné exactement la même réponse, que ce sont deux jours où nos actions sont présentées à Allah et je veux que lorsque mes actions seront présentées à Allah, je sois en état de jeûne. Si notre prophète alayhi salatu wa sallam, lui, il savait l'importance du jour ou des jours où les actions sont présentées devant Allah et il savait qu'il a besoin d'une action pour lequel Allah aura pitié de lui, qu'en dire? Que dire de nous musulmans? Avec le nombre de péchés qu'on accomplit, Allah musta'an, toute personne confondue, quel que soit son degré de science, quel que soit son degré de foi, le nombre de péchés que j'accomplis du matin au soir, le nombre de négligences dont je fais preuve du matin au soir face au faraz, face au wajibat, face au sunan, face au nawafil, face au mode de vie du prophète alayhi salatu wa salam, nous avons grandement besoin de la miséricorde d'Allah. Et une des manières de s'attirer, d'obtenir la miséricorde d'Allah, c'est de jeûner. Afin que lorsque mes actions seront présentées à Allah, peut-être Allah ta'ala aura pitié de moi. Donc, ça c'est une leçon extraordinaire. Est-ce que, je me pose la question, chacun doit se poser la question, est-ce qu'il m'est arrivé une fois de me dire que hier c'était jeudi et Allah a vu mes actions hier, comment est-ce qu'Allah a trouvé mes actions? Est-ce que quelqu'un se pose cette question deux fois par semaine, le lundi et les jeudis, sachant que ces jours-là Allah voit les actions? Certainement lorsque le 27, le 28 du mois approche, on se dit tout de suite que le salaire va être bientôt versé. Lorsqu'on arrive le 4 ou le 5 du mois, je me dis qu'il y aura bientôt les allocations qui seront versées. Je peux aller faire mes courses, je peux préparer mes échéances, mes paiements, etc., etc. Ça fait tilt. Ça, on a compris l'importance. Parce que je sais concrètement que lorsque la CAF me verse mes allocations, je peux aller faire mes courses. Lorsque mon salaire est versé, je peux investir, je peux acheter telle, telle chose. Parce que j'ai compris l'importance du dunya. J'ai compris la valeur de ces choses palpables. J'ai compris l'importance d'une jouissance que je peux avoir immédiatement, maintenant. Mais lorsque le prophète alayhi salatu wa sallam nous dit qu'attention musulmans, le lundi et les jeudis vos actions sont présentées devant Allah. Ô musulmans, attention, dans le mois de Sha'ban, vos actions, bonnes comme mauvaises, sont présentées devant Allah. Faites en sorte que lorsqu'Allah voit vos actions, faites en sorte d'être en état de jeûne, afin qu'Allah aura pitié de vous. Nous devons nous faire du souci pour notre iman. Nous devons nous faire du souci pour les actions qui sont présentées régulièrement à Allah Azza wa Jal. Et mes chers frères, on a terminé, il est 1h05. Dans 15 jours, on sera dans le mois de Ramadan 2011. Et à chaque fois que le Ramadan approche, on se dit que Ramadan, le mois, l'année passe vite, déjà Ramadan arrive. Il y a peut-être des gens qui sont positifs, qui sont optimistes, qui disent « tant mieux, le temps passe vite ». Les Ramadan vont s'enchaîner, on fait plus de bonnes actions. Mais attention, une année qui passe, c'est une année qui me rapproche de Malik al-Maut. Une année qui passe, c'est une année en moins pour obtenir la clémence d'Allah et une année en moins pour demander tawbah, mais malheureusement une année également où je brade mes chances de me faire pardonner mes péchés. Une année qui passe, même un jour qui passe, c'est un jour qui me rapproche de la tombe. C'est un jour qui me rapproche vers la rencontre auprès d'Allah Azza wa Jal. C'est un joie qui me rapproche vers le Mizan, vers le Sirat, vers ces étapes qui sont tous aussi importantes les unes que les autres et pour lesquelles il n'y a pas de session de rattrapage. Donc mes chers frères en islam, comprenons que ce mois de Ramadan, lorsqu'il approchait, le prophète alayhi salatu wassalam avait l'habitude d'annoncer la bonne nouvelle aux sahaba. Et pour faire revivre cette sunna, nous vous annonçons également cette bonne nouvelle. Un peu tôt, on a trois semaines, le prophète le faisait un peu bien proche de Ramadan. Et notre prophète disait aux sahaba, « Qad ja'akum shahru Ramadan, shahrun mubarak. » Mes chers sahaba, le mois de Ramadan est arrivé. C'est un mois béni. « Kataballahu alaykum siyama. » Dans ce mois, Allah vous a prescrit le jeûne. Sachez, mes chers sahaba et chers musulmans, que durant ce mois de Ramadan, les portes du paradis sont grandes ouvertes. Et les portes de l'enfer sont fermées. Et que durant ce mois de Ramadan, les shayatines sont emprisonnés. Ces paroles, vous les entendez tous les ans. Mais c'est un rappel nécessaire pour faire revivre les cœurs. Pour pas qu'on passe ce Ramadan comme tout le temps. Il ne faut pas qu'on arrive à un stade où nous cumulons les Ramadans, où nous comptons les jours du Ramadan qui passent comme un prisonnier qui raye les jours qui restent dans sa détention. Il faut que chaque jour de ce Ramadan 2011 qui va arriver et qu'on va vivre, c'est un jour où je mets toutes les chances de mon côté pour me rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je me dois de vivre les difficultés de ce jeûne comme un mujahada, comme un sabrun fi ta'atillah. Quand j'ai mal à la tête, quand je suis fatigué, quand je suis harassé, quand j'ai faim, quand j'ai soif, c'est pas que je compte les heures que dans 3 heures, dans 4 heures, je vais rompre mon jeûne et je vais bien manger, je vais boire un doliprane, ça va passer, je vais me reposer. Non, chaque difficulté que je vis dans la journée du jeûne, je me dis que ça, c'est pour Allah. Je suis fatigué, ça c'est parce que j'aime Allah. J'ai mal à la tête, je ne prends pas un médicament, je ne mange pas rien parce que j'aime Allah et je me rapproche d'Allah. Vive ces sacrifices, mes chers frères. Ne laissez pas ces sacrifices-là, ces difficultés passer comme une routine. On aura la récompense du jeûne, mais on n'aura pas eu le ihsas. On n'aura pas compris la réalité du Ramadan. Le saum, c'est quoi? C'est un sacrifice pour Allah. Ça fait partie des actions qui nous apprennent à sabru ala ta'a. Faire preuve de patience dans l'obéissance. Faire preuve d'endurance dans l'obéissance d'Allah. Je dois faire vivre ça. Chaque moment de difficulté, je me dis, ça c'est pour Allah. J'ai mal à la tête, ça c'est pour Allah. Je suis fatigué, ça c'est pour Allah. Je fais la sieste, mais c'est l'heure de dhahar. Je me lève, je fais le vaudou, il fait chaud, je viens à la masjid. Je fais ça pour Allah. Et je veux obtenir le contentement d'Allah. Et je veux qu'Allah ait pitié de moi. Mes chers frères, on va, bismillah, essayer de développer ça dans différents programmes. Et les ulama se doivent de le faire également. Quels sont les objectifs à atteindre de ce mois de Ramadan? Je dois me dire que ce mois-là, ce Ramadan 2011, je me fixe trois objectifs. Une bonne action que je dois faire vivre absolument. Travailler ma salat à fond. Ou alors travailler ma sadaqa à fond, ou alors travailler ma lecture du Coran à fond. C'est pas que j'accueille ce Ramadan avec yani, la insouciance. Non, je l'accueille avec trois objectifs. Premier objectif, une bonne action que je vais faire vivre à fond dans ce mois et que je vais garder istiqama toute l'année. Que cette action fera partie intégrale de mes habitudes. Deuxième objectif, un péché. Chacun connaît ses péchés, ce péché-là, je cible ce péché et je fais le maximum pour le diminuer et l'éradiquer de ce moi et l'éradiquer de ma vie. Si j'ai l'habitude, un exemple, on n'a pas le temps d'écouter la musique, je me dis que Ramadan 2011, c'est fini. Je n'écoute plus et toute ma vie, j'arrête et je demande à Allah de m'aider pour que j'arrête ce péché. Et troisième chose, j'essaie de développer une qualité intérieure. C'est pas tout de faire des actions extérieures. Mais si à l'intérieur, on ne s'est pas purifié, on n'a pas fait ce travail de tazkiya, de purification intérieure, on va faire deux pas en avant, mais malheureusement, on fera également deux pas en arrière. La jalousie consume les péchés comme le feu consume le bois. Hadith très connu. Attention, je vais faire beaucoup de bonnes actions, mais si dans mon cœur, je garde la jalousie, de la haine pour mon prochain, ça ne sert strictement rien. Les bonnes actions que je vais cumuler, je vais les détruire moi-même à cause de ce péché. Donc, je me fixe un objectif, un a'mal al-qulub. Soit je développe la sincérité, soit je développe le khushu', soit je développe l'ikhlas, ou alors, etc., etc. Que chaque musulman se fixe trois objectifs pour avancer vers Allah. Et si je me fixe ces objectifs, Allah il est conscient, il connaît que j'ai fait le niya. Et quand je fais le niya, Allah me rétribue. vu déjà. Et quand je fais le niya, ça me permet de lever les mains dès maintenant. Oh Allah, en ce mois de Ramadan, donne-moi tawfiq de faire tous les jours tahajjud et de garder cette habitude toute l'année. Oh Allah, durant ce mois de Ramadan, donne-moi tawfiq d'arrêter de parler, de faire ribat des frères musulmans et que jamais plus je le fais. Et oh Allah, de ce mois de Ramadan, donne-moi tawfiq, par exemple, de contrôler mon regard et de ne plus jamais recommencer ce péché. Vivons un Ramadan intelligent.
سلامٌ على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله الحمد لله رب العالمين جعل الدنيا مزرعة للآخرة ووفق من شاء لاغتنام أوقاتها قبل فواتها إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد وشهد أن لا إله إلا الله هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله جاء بالهدى ودين الحق اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أما بعد أيها المسلمون اتقوا الله تعالى واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون اتقوا الله تعالى وبادروا بالأعمال الصالحة اغتنموا أوقاتكم في فعل الخيرات قبل أن يحول بينكم وبين ذلك حائل اعلموا يا عباد الله أن الله تعالى قد خلق الإنسان لتحقيق غاية عظيمة ولحكمة بالغة ألا وهي تحقيق العبودية لله عز وجل قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقد جعل الله تعالى إقامة الإنسان في هذه الدنيا محدودة وأيامه معدودة وجعل سعادته وشقاوته مبنية على ما يعمله في هذه الدار دار العمل وابتلاء والامتحان يعلموا يا عباد الله أن ما ذهب منه لن يعود وكل إنسان قادم على ما قدم ومن نسي الموت أو تناساه وسوف في الأعمال الصالحة فإنه سوف يندم حين لا ينفعه الندم يقول الحسن البصري رحمه الله يا ابن آدم إنما أنت أيام كلما ذهب يوم ذهب بعضك قال عز وجل وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين يقول النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مردون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ رواه البخاري يقول ابن البطال رحمه الله كثير من الناس أي الذي يوفق لذلك قليل فمن استعمل صحته وفراغه في طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم فهو المغفور ومن استعملها في معصية الله ومعصية رسوله فهو المغفور انتهى كلامه رحمه الله أخي المسلم كن ذاكرا لله تعالى على كل أحيانك كن متوكلا عليه واثقا به بادروا يا عباد الله إلى تجديد الإيمان والرجوع إلى الله تعالى بتوبة نصوحة توبوا إلى الله واعتصموا بالكتاب والسنة حافظوا على الصلوات الخمس تعودوا على قيام الليل وعلى النفقة في سبيل الله علموا أولادكم دينهم الذي به نجاتهم في الدنيا والآخرة واحذروا محارم الله وما لتسجدوا غضبه سبحانه فإنه غفور رحيم لكن عذابه أليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت غد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله الذي بيده ملكوت كل شيء لم يزل ولا يزال عليما قديرا احمده سبحانه وتعالى واشكره واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه اجمعين عباد الله ان الله فضل بعض الاشهر وفضل بعض الايام على سائر السنه وجعل لها فضائل ووعد بالاجر العظيم من قضاها في طاعته وفي عبادته ومن تلك الأشهر يا عباد الله شهر شعبان فكان النبي صلى الله عليه وسلم يهتم بهذا الشهر ولم يكن يصوم من الشهور ما يصوم من شعبان يقول أسامة بن زيد رضي الله عنه قلت يا
يا رسول الله ولما أراك تصوم من الشهور ما تصوم من شعبان؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين عز وجل، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. رواه النسائي. وجاء في حديث آخر أن الآجال تنسخ في شهر شعبان. فعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كان أكثر صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في شعبان. فقلت: يا رسول الله، أرى أكثر صيامك في شعبان؟ قال: إن هذا الشهر يكتب فيه لملك الموت من يقبض، فأنا لا أحب أن ينسق اسمي إلا وأنا صائم. ذكره الهيثمي. فشهر شعبان يا عباد الله مقدمة لرمضان، فيشرع فيه أعمال شهر رمضان من صيام وتلاوة القرآن وصدقة، وصدقتني على المسكين والضعيف كي يتقوى على صيام رمضان. ومن الحكمة يا عباد الله في الإكثار من الصيام في هذا الشهر أنه كالتمرين على صيام رمضان، فيتعود المسلم على أداء هذه العبادة ويجد فيها حلاوة الصيام ولذته، فيدخل في رمضان بقوة ونشاط. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ثم اعلموا يا عباد الله أن الله أمركم بالصلاة والسلام على النبي المصطفى والرسول المجتبى، فقال في محكم التنزيل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، وعنا معهم بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بالسوء فأشغله في نفسه، واجعل تدبيره تدميره يا سميع الدعاء. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم اجعلنا لك شاكرين، لك ذاكرين، لك مخبتين، لك أواهين منيبين. اللهم تقبل توبتنا وارسل حوبتنا وثبت حجتنا واسلل سقيمة قلوبنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
اهدنا الصراط